Je vais faire une petite intro, puis on va pouvoir commencer.
Parfait.
Bonjour à tous les auditeurs de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute du débrief module formule fin d'année, formule revue de l'année. J'ai le plaisir de retrouver un chroniqueur régulier que vous connaissez bien, Jean-Christophe Leblond. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Bonjour. Alors, les auditeurs fidèles du débrief se souviennent de toi. Tu nous as apporté tes lumières dans les secteurs, domaines, aménagement du territoire, architecture, avenir de nos villes et avec une dimension sociale, bien sûr, une touche humaniste. C'est un petit peu dans la continuité aujourd'hui et puisqu'on est en mode revue de l'année, on regarde un sujet vraiment qui a occupé l'avant-plan de l'actualité. Ça touche à l'intelligence artificielle, un buzzword qui est répété et qui est sur toutes les lèvres. Ça touche au fameux terme intelligent. Après les téléphones intelligents, les maisons intelligentes, les téléviseurs intelligents, on nous parle de villes intelligentes. Alors Jean-Christophe, on a des articles pour nous servir de tremplin, si tu veux, aujourd'hui. On a d'abord ce blog du monde diplomatique, Google à la conquête des villes, et un autre papier paru dans The Guardian, ce journal britannique, Google wants to run cities without being elected. Donc, Google désire diriger nos villes sans être élu. Alors, on peut peut-être commencer par cette annonce qui a été faite cette année par Toronto en partenariat avec Google. De quoi s'agit-il?
Donc, il semble que une branche de Google qui a été créée pour faire la promotion de ce concept de ville intelligente qui évidemment utiliserait à fond les capacités technologiques de Google, autrement dit un bras Google pour amener des solutions entre guillemets aux problèmes des villes, a proposé à la ville de Toronto de créer un genre de laboratoire urbain. Donc il y a un quartier central de Toronto au centre-ville là, si je me trompe pas, c'est sur le waterfront,
oui.
Donc
le bord du lac Ontario.
Oui, c'est ça. Donc pour mettre en place là tous les concepts que Google est en train de développer par rapport à la ville intelligente. Et ça soulève énormément de questions d'ordre éthique. Entre autres, que Google se voit... donc, la ville de Toronto a accepté avec enthousiasme. C'est donc Google qui se retrouve un peu à gérer, à être en charge d'un quartier central de Toronto, un secteur névralgique, qui a une énorme valeur du point de vue immobilier, évidemment. Et Google va pouvoir, à ce qui semble, d'après ce qu'on a compris, un peu jouer à la mairie, dans le sens que c'est eux qui vont s'impliquer dans la distribution là des services publics, l'entretien, des choses comme ça, là, vraiment dans la gestion au quotidien de la ville et aussi dans son fonctionnement. Et il y a tout un aspect de développement immobilier. Il y a des millions et des millions de pieds carrés qui seraient développés selon les plans de Google, en fait.
Qu'est-ce qu'on entend par ville intelligente dans le langage Google, bien sûr? Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de Google, selon toi?
C'est un concept dont on entend parler depuis quelques années. En 2013, celui qui avait gagné la course à la mairie de Montréal à l'époque, Denis Coderre, et qui vient d'être défait dans les dernières élections, avait fait la notion de ville intelligente,
son cheval de bataille,
l'élément fort de son programme. Et donc, c'est un peu des notions, c'est-à-dire d'intégrer l'usage des réseaux sociaux, par exemple, pour aller sonder les citoyens. C'est aussi un certain partage de données. Il y a des éléments positifs, là, par exemple, que plus d'informations et de données qui concernent la ville soient accessibles aux citoyens via Internet. Il y a aussi un aspect là qui est supposé d'améliorer la gestion de la ville au quotidien, donc de qu'il y ait par exemple des capteurs qui permettent de déterminer où est-ce qu'il y a des places de stationnement vides et qui permettraient de diriger les automobilistes vers les endroits où il y a des places de stationnement. Mais ça c'était la vision de base là, avant que Google s'en mêle, mais ça c'est des trucs qui étaient de toute façon enclenchés, ça n'a pas besoin de faire l'objet d'un programme. C'est naturel que quand tu as une ville un portail Internet, ben, que tu aies accès à des informations et des données, et ça c'est très bien, ça aide tous les citoyens. Google essentiellement parle en plus, là, et encore une fois, pour moi c'est un peu frivole, là, de régler des problèmes, par exemple en unissant les poubelles publiques et les bancs publics, par exemple,
des capteurs.
Capteurs qui permettraient de détecter si la poubelle est pleine, par exemple. Et donc là, quelqu'un viendrait la vider quand elle est pleine, ou bien qui déterminerait si un banc de parc a été endommagé pour qu'il puisse être réparé sur le champ. Ou un autre exemple qu'il donnait, c'était de mettre des capteurs au carrefour pour que quand il y a des piétons qui attendent, les lumières changent de couleur.
Oui. Alors, ce ne sont que quelques exemples.
C'est peut-être intéressant, mais ça semble un peu, comme je disais, un peu frivole par rapport à une approche beaucoup plus fondamentale là, de s'attaquer aux problèmes réels de la ville. Par exemple, la place de l'automobile dans la ville, peut-être qu'elle se règle autrement qu'en mettant des petits capteurs qui font que les lumières changent de couleur en faveur des piétons. C'est très mignon, mais peut-être que le problème, c'est plus comme des villes comme Londres qui ont complètement exclu les automobiles du secteur central de la ville.
Oui, effectivement. Ce qu'entrevoit Google pour le quartier en bord de lac immense qu'on lui a confié, c'est un circuit de voies publiques qui sont parcourues par des véhicules sans conducteur, hein, des véhicules autonomes.
Oui. Oui, ben c'est ça. Ils allaient y venir. Ils vont régler les problèmes de circulation, entre autres en amenant un réseau de véhicules sans conducteur et aussi de livraison automatisée. Alors, on peut imaginer un système un peu comme ce que Amazon prévoyait de faire, peut-être, avec des drones qui viendraient livrer les livres à domicile.
Oui.
Encore une fois, ça évite un peu les réelles problématiques de façon dont on aménage le territoire pour amener des solutions technologiques qui n'en sont peut-être pas vraiment par rapport aux problèmes de fond en ce qui a trait aux formes urbaines elles-mêmes et à la façon dont les villes sont développées.
Oui,
et l'autre problème en plus, c'est qu'étant donné qu'on parle d'un quartier central déjà dense, on parle d'un endroit où, à la base, il y a beaucoup moins de problèmes qu'ailleurs. Le plus grave problème en Amérique du Nord, qui cause le plus de pollution, qui a le plus grand impact écologique, c'est pas la façon dont les gens vivent dans les centres-villes denses, qui sont bien pourvus en infrastructures pour ce qui est du transport en commun, en services de proximité, etc. C'est l'étalement urbain, les banlieues. Et encore une fois, ça, c'est un problème d'aménagement du territoire. C'est pas un problème de savoir s'il y a des autos et des robots qui se promènent dans les rues ou pas.
Le terrain, en l'occurrence, qu'a remis Toronto à Google, c'est un terrain désaffecté, assez immense, dans lequel il n'y a à peu près rien actuellement. C'est une friche industrielle, hein, si j'ai bien compris. C'est vraiment là-dessus, sur cet espace vide, entre guillemets, ou inutilisé, sous-utilisé, que va construire Google. Je te lis un passage du blog du Monde diplomatique. Je rappelle le titre de cet article publié au début du mois de novembre, « Google à la conquête des villes ». Je te lis un petit passage et tu me diras ce que ça t'inspire. « Des bâtiments peu coupés. pardon, des bâtiments peu coûteux et modulables qui s'assemblent en un rien de temps, des capteurs qui mesurent la qualité de l'air et l'état des équipements, des feux de signalisation adaptatifs qui donnent priorité piétons et cyclistes, des systèmes de stationnement qui orientent les voitures vers les emplacements disponibles, sans parler des robots de livraison, des réseaux électriques dernier cri, du tri automatisé des déchets et bien entendu des voitures autonomes à tous les coins de rue. Donc ça, c'est un peu le résumé de ce qu'on vient de discuter. On voit dans ce paragraphe que Google veut vraiment régir la vie en société, du moins la vie pratique en société. Est-ce qu'ils sont en train de ringardiser les urbanistes et les spécialistes de l'aménagement?
C'est-à-dire que je pense qu'ils se comportent comme des gens qui sauraient ce qu'ils font à cause de leur... compétences technologiques qui sont certainement à la fine pointe. Mais comme je dis, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans plusieurs domaines, pas juste dans la question de l'aménagement,
oui,
qui ne relèvent pas de la technologie. Et qui relèvent plus de l'endroit où on décide de tracer une route ou de la densité que le zonage permettrait, de la façon dont un secteur est desservi. Comme je dis, là, a priori, étant donné que c'est une zone qui est déjà centrale, ce n'est pas une zone qui est à problème. Pratiquement n'importe quel développement qui serait fait dans cette zone-là serait certainement fait selon avec des critères de densité importants parce que c'est une ville centrale, c'est un quartier central. L'accès au transport en commun va de soi. Je pense que Google est plutôt en train de parler comme un néophyte qui pense qu'il sait tout parce qu'il, d'abord, non pas par ignorance, non pas par naïveté, je pense dans ce cas-ci, mais plutôt parce qu'ils ont un objectif en tête.
Oui.
Ils sont en train de convaincre la ville de Toronto de leur remettre une superficie énorme qui a une valeur immobilière énorme.
Mm-hmm.
Et donc, ils sont des promoteurs immobiliers qui viennent de se faire, frapper un très, très beau magot.
Oui, en effet. Je te lis un passage de la Tribune qu'avait publié dans le Guardian cet éthicien des technologies, donc quelqu'un qui s'est penché sur l'éthique des technologies. Il a signé récemment une tribune dans The Guardian. Ça s'intitulait « Google wants to run cities without being elected ». Google veut diriger les villes sans avoir été élu préalablement. C'est signé par Jatan Sadowski. Un court passage en anglais, je vais traduire immédiatement. « But cities are not machines that can be optimized, nor are they labs for running experiments, not platforms for users, not businesses for shareholders. » Donc, les villes ne sont pas des machines qu'on peut optimiser. Ce ne sont pas des laboratoires dans lesquels on fait des expériences. Et ça ne sont pas non plus des plateformes pour les utilisateurs, en guillemets, ou encore des entreprises pour les actionnaires. Est-ce que ça te paraît quelque chose de pertinent dans le contexte?
Oui et non, dans la mesure où je pense que les villes ont été et sont toujours pour l'humanité des laboratoires absolument fascinants où les grandes innovations sociales ont eu lieu.
Oui.
Et il y a eu et il y a encore aujourd'hui une longue histoire de tradition d'exploration dans le développement des formes urbaines qui est très importante en termes de ce qu'elle nous a appris. Mais le problème, justement, c'est que dans ce cas-ci, les explorations que propose Google comme étant novatrices et comme étant des solutions sont, en fin de compte, très superficielles et peu audacieuses. Et relèvent soit de la mauvaise foi ou d'une mauvaise compréhension des problèmes. Par exemple, Google utilise pour faire passer son projet tous les buzzwords à la mode, donc
oui,
ça va être des villes,
y compris le logement social, hein, y compris
de miser sur les communautés, sur le local, tisser des liens entre les résidents, l'écologie, le transport en commun, etc.
L'accès au logement, c'est très très.
L'accès au logement, exactement, et c'est
parce
là
que
je voulais en venir. L'accès au logement abordable.
Oui.
Mais encore une fois, les solutions que propose Google ne comprennent pas le problème. C'est vrai que les coûts de construction, il y a certainement des façons de les abaisser. Il faut rechercher des façons de faire diminuer les coûts de construction. Mais ce qui fait qu'un logement dans le centre de Toronto coûte les yeux de la tête, ce n'est pas le coût de sa construction, c'est la spéculation immobilière et le fait que les terrains sur lesquels ils sont construits ont une énorme valeur foncière. Donc, que Google propose, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la proposition de Google, ils disent vaguement, d'une part, qu'ils vont abaisser les coûts de construction et d'autre part, quand on leur demande, ils ne donnent pas vraiment de détails, sinon, sur comment ils prévoient faire du logement social. Ils disent juste que les gouvernements vont mettre des fonds pour ça. Ben, c'est fantastique. Moi, je suis tout à fait en faveur de ce que les gouvernements consacrent des fonds au développement de logement social, mais on n'a pas besoin de Google pour faire ça.
D'accord. Alors, aussi, une chose qu'il importe sans doute de clarifier, c'est que Google n'est pas dans ce projet, ne s'est pas engagé dans ce projet pour faire de la spéculation immobilière. Google a des milliards, des centaines, des millions de milliards, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pratiquement la plus grande entreprise de la planète avec Apple et Facebook et quelques autres. Ils ne sont pas à Toronto pour réaliser un gain immobilier. Alors, pourquoi sont-ils à Toronto? Qui trouvent-ils? Où est leur avantage dans cette équation, dans ce projet qu'ils ont démarré dans cette ville? Alors, c'est probablement, et moi, c'est ce que je peux avancer avec les lectures que j'ai faites, c'est probablement l'intelligence artificielle. À terme.
Ben,
c'est ça le but.
Je dirais encore plus.
Oui.
Parce que comme tu dis, est-ce que Google a vraiment, ils font déjà assez d'argent à faire ce qu'ils font? Est-ce qu'ils auraient intérêt à se lancer dans l'immobilier juste pour faire de l'immobilier?
Non.
Alors qu'il y a déjà des gens qui sont spécialisés là-dedans, ben pas nécessairement. Mais comme tu dis, pour
c'est
eux,
le big data.
Le gain est ailleurs. C'est que, ben j'en vois deux. C'est que d'une part, Google veut se proposer comme étant la plateforme. Se présenter aux gouvernements municipaux, présenter une espèce de plateforme Google qui s'occupe de la gestion des villes et donc vendre toutes sortes de services aux entités publiques.
Oui.
Et d'autre part, c'est la collecte de données.
Voilà.
Tous ces projets-là de capteurs partout, de sondages de la population et tout... le fait d'utiliser des autos, de commander ton auto, ta voiture autonome, de toutes ces choses-là qui se passeraient par le biais de la plateforme Google, c'est aussi autant d'instants à chaque fois où on interagit donc avec la ville autour de nous, on est en train de transmettre des données à Google.
Oui.
Et là, c'est pas une question de vie privée de chaque individu. On va se comprendre. Je pense pas nécessairement que ça veut dire que Google va essayer d'aller contrôler ou décrypter la vie de chaque individu. Mais toutes ces données-là restent des données commercialisables pour décrire les comportements d'une population.
Oui. Et vendre ces données aux plus offrants, lesquels vont développer des produits conséquents.
Parce que c'est ça. Encore une fois, on y revient, c'est une espèce de marchandisation de l'espace public.
Et du tissu humain, quelque part.
Et de la vie quotidienne des gens.
Oui, je me sentirais
un autre élément qui est un peu hypocrite dans la présentation qu'en fait Google, c'est qu'ils parlent dans leur description du projet, de leur intention de créer des communautés conviviales, etc., etc. Mais en même temps, ce projet-ci qui concerne un immense secteur de Toronto, il n'y a pas eu de consultation publique. Ça s'est décidé entre quelques élus.
Il y a eu une soi-disant. Il y a eu une soi-disant consultation
démocratique locale.
Oui, il y a eu une consultation, mais je crois que c'était plutôt dans un cadre d'entreprise, des sondages, etc., ce genre de choses.
Oui, oui. Il n'y a pas eu de débat public de fond. Il n'y a pas eu de débat au niveau municipal comme il devrait y avoir pour un projet de cette ampleur-là. Donc, il y a un peu un contournement de la démocratie locale.
Oui.
Et une critique actuelle des villes, c'est que souvent, les gouvernements des villes, même si elles prennent des engagements là, de consulter la population, d'impliquer la population dans les prises de décision, même pas juste de les consulter une fois que des décisions ont été prises, et les gouvernements municipaux, pour permettre à des promoteurs de faire des gros projets, souvent essaient de contourner la démocratie locale. Mais là, on a encore un exemple, on pourrait dire, encore plus poussé de ce phénomène-là. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut créer des communautés conviviales, bien enracinées dans leur lieu de vie, tout en contournant et en ne proposant pas de forme de démocratie au-delà de sonder les besoins des gens à l'aide de capteurs.
Oui, ben moi, j'aurais l'impression d'être sous microscope, de vivre dans un jardin zoologique. Si j'étais habitant de ce quartier Google, j'aurais l'impression d'être finalement de la chair à Big Data, d'être une espèce de petit élément dans une mer d'autres individus qui sont là pour donner finalement leur comportement contre un petit peu de un toit, contre quelques avantages.
Contre ce qu'ils promettent comme étant quelques avancées pratiques.
Oui.
Regarde, tu vas arriver au coin de rue, la lumière va changer tout de suite, possiblement. Sauf qu'évidemment, ce qui ne marche pas là-dedans, c'est...
Il y avait des trucs aussi sous le chauffage.
Dire, un coin de rue dense d'une ville centrale, d'un quartier central d'une ville, il y aura tellement de demandes conflictuelles entre les gens et les véhicules aux différentes intersections qui veulent traverser dans différentes directions que je sais pas exactement comment ça va marcher pour vraiment... On remplace la notion de participation et de démocratie par une notion de
algorithme,
donc de vie pratique.
Oui.
Et la notion que d'ausculter tes comportements et de s'adapter à ce qu'on perçoit que sont tes comportements, ça remplace le fait d'avoir un débat sur différents enjeux et de te consulter par rapport aux politiques d'une ville.
Alors, oui.
Un sondage permanent d'individus isolés, ce n'est pas la même chose qu'un débat.
Oui.
De société.
Puis en plus, ce sont des sondages à l'insu des participants, quelque
oui.
part, puisque
oui.
ce sont leurs recherches web, ce sont leurs préférences.
Tu n'auras même plus besoin de
s'ils aiment le café ou le thé.
Quels sont tes besoins.
Oui.
Il y a beaucoup de problèmes avec cette prémisse-là.
Et Google, sans doute, voudra un jour plus tard agrandir l'échelle, donc passer d'un quartier à la ville entière et bientôt à l'État aussi, et peut-être gérer d'immenses juridictions et administrations, peut-être des provinces, des États. Mm-hmm. Ils sont très ambitieux, évidemment, on connaît leur parcours. Donc, ce sera évidemment à suivre cette démocratie algorithmique, ces villes...
Très bien, j'aime la formule.
Oui, en fait, je ne sais pas si on pourra...
On n'a plus besoin de te demander ton avis parce qu'on le sait déjà en analysant à l'aide de nos algorithmes et tes comportements.
Exactement, et il faudra peut-être supprimer le préfixe « démon » qui signifie « peuple » et le remplacer par Googlecratie, quelque chose comme ça.
Oui.
À suivre, on peut peut-être renvoyer nos auditeurs aux deux articles qui ont servi de tremplin à cette discussion aujourd'hui. Le Monde diplomatique, c'était un article qui est apparu dans la section blog, donc il est en accès libre. Google à la conquête des villes, c'est signé par Evgeny Morozov. Et cet autre papier, c'était une tribune parue dans The Guardian, Google wants to run cities without being elected, signé par Jatan Sadovsky, également paru très récemment. Donc voilà, et tout ça, tandis que le Canada a lancé un concours sur les smart cities, les villes intelligentes, dont on peut peut-être dire quelques mots, Jean-Christophe, le projet faisait l'objet d'un forum itinérant qui était d'ailleurs de passage ici à Victoria, forum auquel a participé la mairesse Lisa Helps. Donc, je crois que tu as examiné la page de ce concours, ce challenge, comme on l'appelle, le challenge pour rendre les villes plus intelligentes. Est-ce que ça te semble une initiative porteuse de la part d'Ottawa?
Encore une fois, pas vraiment. Là, ils truffent le communiqué de tous les mots qui sont à la mode actuellement.
Oui.
Ils cessent même à parler des communautés autochtones donc métis et Premières Nations. Et puis là encore, je veux dire, quand on voit les problèmes sociaux et politiques profonds auxquels ils sont confrontés, de penser trouver une réponse dans quelque chose d'aussi superficiel, j'ai vraiment l'impression que c'est simplement une façon réussir à implanter quelque chose, peut-être parce que le gouvernement voit une façon de se délester de certaines responsabilités possibles éventuellement, et donc de réduire ses dépenses, de privatiser en fait la fourniture de services.
Oui, on voit que
par des organismes, des compagnies
à but lucratif.
À but lucratif, comme Google et tout, qui promettront une énorme efficacité en échange de ce que cela leur soit délégué.
Soi-disant.
Mais je ne pense pas que ça va s'attaquer au problème de fond, la relation coloniale qui est toujours très, très, très actuelle dans les relations entre le gouvernement et les communautés autochtones, par exemple.
Alors, notre gouvernement, sous influence sans doute de ces titans, de ces géants de la nouvelle technologie, Jean-Christophe Leblon, à Montréal, un grand merci. Merci d'être revenu pour un petit tour de piste en cette fin d'année 2017, alors que le débrief pose un regard rétrospectif. Gros merci, au plaisir de se retrouver bientôt sur les ondes de CILS FM 107,9.
Merci beaucoup, Alexis.
À bientôt, merci. OK, alors j'arrête l'enregistrement. Ouais,
on avait à dire. Hein?
Ouais, on était en verve.